façon dont moi je suis arrivé au libre. On voit de nos jours des gens qui viennent faire du logiciel libre parce que c'est libre et par conviction politique. Moi, j'y suis pas du tout arrivé pour ça. J'ai plein de convictions politiques tout à fait compatibles avec le logiciel libre. Mais c'est pas pour ça que je fais du logiciel libre. Moi, de base, je suis un informaticien. J'ai d'abord cherché des outils qui marchent. Je me suis toujours intéressé à ce qui imprimait. Quand j'ai cherché à faire des typographies, j'ai forcément croisé Tech parce que c'est à peu près le seul outil qui marche convenablement en ce bas monde. Quand j'ai cherché à faire tourner Tech, j'ai essayé sur MS-DOS, c'était quelque chose de catastrophique. J'ai vu que sur les stations UX à l'école, ça marchait bien, mais c'est pas dans mon budget. Quand on m'a dit qu'il y avait des Unix dans mon budget qui étaient capables de faire tourner les produits dont j'avais besoin et qui marchaient, j'ai sauté dessus. Donc je suis pas du tout venu au libre parce que c'est la lutte finale, tout ça. Juste parce que j'avais besoin d'un produit qui marche, qui soit dans mes moyens, ou quand il ne fait pas ce que je veux, j'ai le droit de le corriger, et où il y a moyen d'échanger autour. Vraiment, la question de départ était un pur problème de qualité. Je vous fais les premiers slides sans l'image, et puis on rattrapera après. Donc le titre, c'est « Le libre et après ». Au départ, ça s'appelait « Open Office, pourquoi pas ». L'idée étant, pourquoi pas ? Pourquoi c'est pas une bonne idée ? Pourquoi, à mon sens, OpenOffice, c'est pas une bonne idée ? Puis bon, j'ai appris qu'il y avait des gens d'OpenOffice qui venaient, donc on a fait un tout petit peu moins polémique. Parce qu'en plus, il n'y a pas que à propos d'OpenOffice que je pense ça de beaucoup d'autres solutions dans le libre à l'heure actuelle. Comme je vous l'expliquais, moi je suis venu au libre parce que ça marchait, et il y a énormément de soft en ce moment dont j'ai le sentiment. Enfin, il me pose les mêmes problèmes que quand je cherchais à l'époque, quoi. Je suis autant embêté avec que si j'avais mis un Windows. J'ai les mêmes embêtements pile poil. Pareil, ça fait plein de trucs dans mon dos, ça me dit pas ce que ça fait. Vraiment le même sentiment bizarre. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'en étais arrivé à ça et pourquoi j'en suis arrivé à mon problème. C'est pas que ce soit libre, mon problème c'est que ça marche. C'est que ça satisfasse mon besoin. Si c'est libre, tant mieux. Et puis j'ai essayé de formaliser un peu cette réflexion, et je me suis dit qu'à certains moments, on avait confondu le but et le moyen. Libre, c'est pas un but, c'est un moyen. C'est un moyen de faire des choses qui marchent. C'est un moyen de faire des logiciels que tout le monde peut améliorer. C'est pas un but. Et une des caractéristiques que j'ai trouvées, un des points qu'a créé ma réflexion, c'est que pendant très longtemps, pendant des années, j'ai dit à tous mes amis... si tu appelles à Suite Office, tu pourrais enfin abandonner ton vieux Windows dont tu ne te sers presque plus. Ah, mais si tu avais aussi ton ICQ sur Linux, tu n'aurais plus besoin de ton Windows. Quel que soit le soft, hein, d'ailleurs, il y en a plein. C'est « Ah, si tu avais un clone de ce machin-là sous Linux, tu n'aurais plus besoin de ton Windows. » Et maintenant, tous les clones, ils existent. Et moi, j'ai toujours du mal à me passer d'un Windows quand j'ai besoin d'un de ces outils-là. J'en utilise très peu, j'en ai pas chez moi. Par contre, dans un cadre professionnel, j'ai un peu d'usage de ces choses. Je préfère le faire tourner sur un Windows, c'est vachement plus simple, c'est fait pour. Ça marche comme ça marche, mais c'est fait exprès. Donc je me suis dit qu'il y a quelque chose qui devait ne pas coller. Alors,
je crois qu'il faudrait peut-être l'écouter jusqu'au bout.
Je pense qu'on va dire plutôt sur le dernier transparent que sur le premier.
Le livre, c'est pas un but en soi. Alors, je suis pas du tout d'accord. Ma conclusion, c'est totalement le contraire.
On en parlera quand j'aurai fini.
L'humanité progresse parce qu'on s'écoute et qu'on ne part pas d'a priori comme ça. Et justement, le livre, c'est souple.
Bien. Alors ça, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc ça, c'est la définition à peu près classique du logiciel libre. Hein. C'est plus ou moins celle de Stallman au départ, qui dit qu'en gros, c'est libre si c'est librement diffusable, si le code source est disponible, si c'est modifiable, si on peut diffuser les modifs. On a à peu près le droit de tout faire avec. Et la seule question, c'est est-ce que ça suffit pour en faire quelque chose d'intéressant ? Parce que du logiciel libre, moi, je vous en fais quand je veux. J'écris n'importe quel programme avec les pieds qui ne marchent pas et qui ne fait rien, je le mets sur mon site web, c'est un logiciel libre. ça ne va pas lui donner un grand nombre de qualités quand même. Enfin, globalement, ça restera une merde. Puis surtout, ça sert à qui tout ça? C'est bon, librement diffusable, ça c'est intéressant. C'est gratuit. Ça veut dire gratuit. C'est le cas d'Acrobat Reader, c'est le cas de Windows Media Player, c'est le cas d'Internet Explorer, c'est le cas de plein de choses en fait, gratuit. Et on est bien d'accord, gratuit c'est pas franchement. C'est une qualité en soi quand on n'a pas, quand on n'a pas le rond. Mais si, c'est écrit dans la licence. On est même invité à le diffuser. Que le code source soit disponible, ça par contre, disponible, modifiable, qu'on ait le droit de diffuser le modif, on sent bien que c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant. Moi, je fais de l'informatique depuis que je suis en CM2. Je programme beaucoup, c'est mon métier, c'est ma formation, j'encadre des développements. Enfin, je baigne dedans depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit. Alors pour moi, c'est intéressant parce que je sais faire. Donc quand je trouve un programme qui ne marche pas, je me dis, tiens, je vais pouvoir le modifier, c'est bien. Maintenant, pour mon père qui est prof de philo, voyez-vous, c'est moins... Enfin, pour lui, OpenOffice, il ne se sent pas beaucoup plus libre avec le droit de le modifier. Il ne le fera pas. Il a fait un peu de programmation quand il était plus jeune. Il a travaillé en Fort Pampux sur un Hector HRX. Je pense que ça ne dit rien à personne. C'est une machine ancestrale à base de Z80. Il est incapable de mettre les doigts dans un source d'une telle complexité. Enfin, même moi, je n'ai pas le temps. Donc, à mon avis, pour un informaticien, c'est bien. Mais pour les vrais gens de la vraie vie de tous les jours, ils ne sont pas plus libres avec ça. Ou pas beaucoup. C'est une qualité. C'est comme pour les gens qui aiment bien le bleu. Ils estiment que bleu, pour une voiture, c'est une qualité. Mais... c'est pas très structurant. Enfin, avoir un outil libre qui marche pas et un outil libre qu'on n'est pas capable de corriger soi-même parce qu'on n'a pas les compétences, on sent bien qu'il manque quelque chose. Il manque la liberté de l'utilisateur. On a défini que la liberté de l'informaticien. Et pour moi, j'ai cherché un mot pour dire un logiciel qui n'est pas libre en lui-même, parce qu'il peut toujours aller gambader dans les champs de logiciels, ça n'aidera pas mon utilisateur. J'ai cherché un mot pour dire le logiciel qui aide l'utilisateur à être un peu plus libre que s'il avait utilisé autre chose. Alors le mot que j'ai fabriqué, qui fait un peu barbarisme, c'est libérateur. Et je suis parti de cette définition-là, qui paraît un peu floue, qui dit un logiciel est dit libérateur s'il n'entrave pas sans raison ni acceptation de sa part la liberté de celui qui l'utilise. Alors comme ça, c'est très protéiforme, c'est très flou. Je vais essayer de le détailler avec quatre points à reprendre derrière. Le premier point qui me paraît important pour définir un logiciel dit libérateur, c'est une notion de propriété intellectuelle. Alors pas au sens brevet, hein, c'est pas mon métier. Je sais ce que j'ai écouté les grands penseurs, c'est très mal, mais c'est pas mon métier. Par contre, je sais qui est propriétaire des données. Quand je tape un document, quand j'écris un programme, quand je rentre des infos dans une base de données, c'est mes infos à moi. C'est pas celle à l'éditeur du logiciel, c'est pas celle du propriétaire de l'ordinateur, c'est mes infos à moi. Quand j'écris mon journal intime avec un clavier, moi je ne sais plus écrire avec un stylo, les infos que je stocke, ce sont les miennes. Et on est prié de ne pas me les voler. Alors du coup, je suis arrivé à cette idée-là. Si un logiciel s'accapare les données de l'utilisateur et est incapable d'interopérer de manière normalisée à partir de ces données, il porte atteinte sans raison à la liberté de l'utilisateur. Et en gros, que je mette mes données dans un machin électronique, c'est bien gentil, mais ça doit pouvoir ressortir sous une forme suffisamment standard pour que je puisse le rebrancher sur autre chose. Alors l'exemple type du truc qui n'est pas libérateur, c'est le fichier .doc. J'ai mis mes données dedans. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir les en réextraire avec un outil classique, normalisé. En faisant un peu de reverse engineering, en faisant des trucs pas forcément très légaux, on arrive à réexploiter via des biais détournés, mais toujours avec une perte, toujours pas exactement. Ces macros que j'ai mis des semaines à écrire, elles sont perdues. Donc, il y a une façon de me voler mon bien. Les données que j'avais mis dedans, ben, je les ai plus. Donc ça, je considère que c'est un critère assez bloquant. Et pour moi, ça définit un logiciel. Il peut très bien être libre en faisant ça. J'ai les mêmes remarques à propos du format de données de StarOffice, quoi. ou d'Open Office, qui est son nom moderne. Je mets mes données dedans, bien malin, le mec qui arrive à les ressortir en un temps raisonnable et sous une forme à peu près similaire à ce que je voulais. J'insiste bien sur le premier point, il y a une notion d'interaction. Je sais bien que dans un moteur de base de données, c'est toujours stocké en binaire et c'est jamais lisible tel quel. Par contre, il y a des moteurs de base de données qui sont interrogeables dans des langages normaux, standards, type SQL, ceux qui ne le sont pas. Pour moi, un logiciel qui stocke en binaire, c'est pas choquant. Par contre, qu'il soit incapable de communiquer avec l'extérieur pour échanger les données de manière complète, ça, c'est choquant. Le deuxième point, il rejoint un peu les conférences que fait en ce moment Thierry Stoer sur le problème de format de fichier. Moi, je suis propriétaire de mes données. J'ai mon journal intime, il est à moi. Le logiciel, c'est moins clair. On vient de plus en plus dans un monde où les logiciels vont se louer, où les ordinateurs vont se louer. Si on les écoute et si on les laisse faire, tout va se louer. Moi, ce que je possède, c'est mes données. Elles sont vieilles, mes données, j'y tiens. Mon ordinateur, il est peut-être cassé. Le soft, je ne l'ai peut-être plus. J'ai paumé la disquette 5 pouces 1 quart qui m'avait servi à l'installer. Le fichier, par contre, il est à moi. Et il faut que ce soit dans un format suffisamment reconnu, suffisamment normal, quoi, pas un machin bizarre, pour que je puisse m'en resservir après. Et ça, ça me paraît une notion assez forte.
Est-ce que je peux vous poser une question ?
J'aimerais plutôt à la fin, sauf si c'est pour un tout petit détail.
C'est le PDF, est-ce que c'est un tel format ?
Ouais, le PDF, moi, ça me convient.
C'est libérateur pour vous ?
Pour moi, le PDF, ça me convient. Ça satisfait ce critère-là, en tout cas. Ça satisfait ce critère-là pour une raison très simple. Le format, l'aspect est publié. Il y a des implémentations autres que celles de la boîte qui l'ont fait. Il y a des softs autres que ceux d'Adobe qui produisent du PDF. C'est du PDF parfaitement normal et de très bonne qualité et qui se tient complètement face à celui d'Adobe. Donc pour moi, oui, PDF, ça satisfait à ça.
Et le français ?
XML ? XML, ça peut, c'est moins clair. Ça peut, c'est moins clair parce que XML, ça veut rien dire. Je peux te dire BNF, c'est pareil. XML, pour moi, c'est pas clair. C'est la DTD. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je peux publier n'importe quoi sur mon site web. C'est libre. Ouais, d'accord, la belle affaire. Après, il y a... Donc ça, c'est... Le point suivant, c'est celui que j'appelle entrave et mensonge. Je sais pas si vous avez déjà manipulé des Windows. Ah. Moi, j'ai eu l'occasion. Dire du mal de quelque chose qu'on n'a pas manipulé, c'est pas bien du tout. Utiliser, configurer un peu, essayer de faire ce que je fais. Moi, je fais plein de choses tous les jours avec Linux et j'ai essayé de faire les mêmes choses avec Windows. Alors, je ne sais pas si la notion de MTU, ça vous dit quelque chose, mais essayer de changer le MTU d'une interface réseau sur Windows, c'est une plaie. L'info, elle est cachée. Alors, quand on a la bonne interface graphique avec une souris et un clavier, on peut s'en sortir en trouvant le bon onglet. Par contre, si on essaye de le faire en automatique dans un script, c'est indémerdable. Et on a essayé, j'y suis arrivé. C'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc, ça me donne l'idée que de masquer des informations alors qu'on les détient, c'est pas libérateur. Ça nuit à la liberté des gens. C'est comme ce gag classique. Le fichier Word qui est la réponse à l'appel d'offres machin, qui contient encore, caché quelque part au fond et que Word refuse de montrer, les infos des versions précédentes. Ou une copie d'une annotation qui a été faite dans le document disant « ne pas descendre en dessous de tel prix », qui n'est pas du tout celui qui est dans la réponse à l'offre d'appel. Y a des tas de choses dans ce genre-là qui existent et je trouve que c'est assez malsain. Un logiciel qui tente à masquer toute ou partie de l'information ne peut pas être dit libérateur. Un logiciel qui ne montre qu'un morceau de l'information et qui ne permet pas d'accéder à tout, ça ne va pas rendre les gens plus intelligents, ça ne va pas rendre les gens plus instruits, ça ne va pas les aider à progresser. J'ai toujours l'impression que quand on prend le consommateur pour un con, a priori on se trompe, il doit être capable de réfléchir. Enfin, il devrait. Après, il y a un dernier point qui est un pur problème de pérennité. Dans l'automobile, on estime la durée de vie, c'est 10 ans, il faut fabriquer des pièces pendant 10 ans après la fabrication des voitures. Alors, dans l'aéronautique, moi j'ai fait des stages à la SNECMA quand j'étais jeune, c'est plutôt autour de 30 ans. que 30 ans après la fabrication du dernier réacteur, on continue à faire les pièces. En matière de données, ça dépend énormément du secteur d'application. Parce que si c'est des données de l'aéronautique, il faut que ça dure 30 ans. Quand on stocke dans une usine qui fabrique des moteurs d'avion des tas d'infos sur la façon dont ont été fabriquées les pièces, quel numéro de série a été forgé par qui, à quelle température, dans quel four, etc., il faut que ça vive 30 ans. Et mes données à moi, mon journal intime, ou mes mémoires, j'aimerais bien que ça puisse me survivre. Moi, j'ai à peu près 30 ans. Si tout va bien, il me reste au moins 25 ans à vivre. Il faudrait que ça tienne au moins ce temps-là. Non, je fume, je bois, enfin, des trucs épouvantables, donc 25 serait déjà bien. Donc, si je fais ça de manière assez brutale, un logiciel dont on n'assure pas la diffusion de toutes les versions ne peut pas être délibérateur. Ah oui, parce qu'on ne peut pas exiger que la version de 2025 de tel ou tel soft soit entièrement backward compatible avec la version de 2004. Ça, c'est aberrant. Ça, en tant que technicien, en tant que programmeur, je sais que c'est aberrant. Ça amène à des usines à gaz, ça interdit l'évolution. Par contre, dire, le jour où on fait la rupture complète sur le format de fichier, dire on garde l'ancienne version, on la laisse à dispo et on fait en sorte qu'elle existe toujours et qu'elle continue à tourner sur des OS relativement modernes et qu'elle soit toujours portable, ça, ça a un sens. Dire, bah, au pire, quelqu'un qui vient avec son document d'il y a 15 ans, ben, il sait que sur le site FTP sur lequel est diffusé le logiciel, il trouvera l'exemplaire d'une version d'il y a 15 ans qui est compatible avec son fichier.
Donc vous suggérez que l'IFICA soit encore tourne sur Windows 2000.
Ouais. Ben, oui.
L'IFICA 1967.
Et s'il y a des infos importantes dans un document VisiCalc, qu'il faut bien le garder. Alors ça, c'est un peu brutal, dire qu'on doit diffuser toutes les versions. C'est un peu... Ça risque de faire volumineux. Enfin, j'ai travaillé sur des softs où on sort des versions tous les 15 jours, qui sont des gros softs. Si on devait garder toutes les bêtas qui ont été diffusées, on n'a pas fini. Alors c'est un peu plus subtil. Je pense qu'on doit pouvoir se contenter de ça. Un logiciel dont on n'assure pas qu'on soit capable de lire ses anciens documents, fût-ce en diffusant ses vieilles versions, ne peut pas être délibérateur. On arrive bien à quatre concepts qui me paraissent clés. Si le logiciel s'approprie les données, il doit être capable d'interopérer. S'il ne les approprie pas plus que ça, il doit être capable de les écrire dans un fichier dont le format est suffisamment standard, je reviendrai sur ma définition du mot standard, pour ne pas spolier l'utilisateur. Il m'en manque un. Je suis perdu. Oui, voilà. On ne doit pas masquer d'informations. C'est-à-dire qu'un logiciel, ce n'est pas là pour mentir. À la limite, ça doit être. Je prendrais bien l'image du tableau de bord de voiture. Pour moi, un tableau de bord de voiture, c'est un truc qui n'est absolument pas libérateur. Ça ne vous montre pas 10% de ce qui se passe dans le moteur. C'est-à-dire, si ça se trouve, votre moteur est à deux doigts d'exploser, le tableau de bord, lui, il dit rien. Ça me paraît, c'est le genre d'interface que j'aime pas. J'aimerais mieux qu'il y ait un petit lorgnon pour que je puisse regarder si des fois je soupçonne qu'il se passerait un truc qui m'intéresse. Et que c'est bien qu'on puisse ouvrir le capot pour regarder dedans, c'est très instructif. Et puis il doit y avoir une certaine pérennité. Donc ça pour moi, c'est quatre critères qui relèvent aussi de l'idéologie politique quelque part, mais qui tendent non pas à assurer la liberté du développeur que je suis, hein, parce que ça, pour ça, vous êtes très 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 nombreux à écrire des tas de programmes qui me rendent beaucoup plus libre. Moi, j'aimerais bien que, soyez gentils avec mon papa, faites des programmes qui le rendent libre, lui. Un utilisateur, juste quelqu'un qui ne sait pas coder, ou qui n'a pas envie de coder, d'ailleurs. Parce que, là, je suis en train de vous faire une présentation, alors ça tourne sur Mac OS X, ça, je ne sais pas m'en servir, c'est trop compliqué pour moi. Par contre, ça tourne avec Acrobat Reader et c'est le seul lecteur de PDF que j'utilise. Et c'est pas parce qu'il est libre ou propriétaire, c'est juste parce que celui-là, il marche. Moi, j'ai rien contre les autres. J'ai pas le temps d'en écrire. Si j'avais le temps, je le ferais sûrement, mais j'ai pas le temps. Celui-là, il marche. Les autres, ils marchent pas. Ou mal. Ou pas complètement. Après, il y a un deuxième, aspect. Donc, j'ai cet aspect libérateur qui, moi, me paraît très important. Ça me paraît être un critère de qualité pour un logiciel, au moins au même titre que le fait d'être libre. Il y a un deuxième grand critère habituel. Alors ça, c'est, pour écrire tout ça, j'ai essayé de me souvenir de ce que j'ai vu à l'école, de ce que j'ai pratiqué en entreprise. Comment on définit la qualité d'un logiciel ? Parce que ça se mesure, il y a des outils, il y a des règles. Personne n'est d'accord, comme dans toutes les sciences pas exactes, parce que c'est du feeling, la qualité. Mais il y a quelques outils, alors je vais en reprendre quelques-uns. Il y a la stabilité. Alors la stabilité, ça recouvre au moins deux notions en matière de logiciel, ce que j'appelle la stabilité courte, qui est le fait que ce soit stable à l'utilisation. C'est quand même un critère de qualité. Le nombre de reboots par heure, c'est une unité de mesure de la non-qualité d'un logiciel. Ça me paraît important. Je pense que pour quelqu'un qui veut réellement utiliser de manière sérieuse, j'allais dire travailler, mais non, parce que j'ai des copains qui sont des grands amateurs de jeux, quand ils utilisent leur console de jeu, c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux, c'est briller de marché. La stabilité longue, c'est la stabilité dans le temps. Ça reprend quelques-uns des critères que j'ai donnés sur la pérennité. Un logiciel stable dans le temps, c'est un logiciel où, en gros, je ne vais pas être obligé de réapprendre tous les 15 jours. Vous, je ne sais pas, moi, quand j'ai appris un langage de programmation, en général, je m'y tiens. J'ai appris le C, il y a longtemps. Enfin, pas tant que ça, mais enfin un peu. 15 ans. J'écris encore du C maintenant. Franchement, ce n'est pas très différent. Il y a deux ou trois détails de syntaxe qui ont changé. Mais si je m'en tiens à mon savoir d'il y a 15 ans, j'écris encore du C, qui est parfaitement juste, et j'ai pas de problème, et franchement, il ne manque pas grand-chose. Si j'ai appris PHP il y a 4 ans et demi, je ne sais rien de ce qu'il y a à savoir pour le PHP de la semaine prochaine. Ça me paraît être un vrai problème. Le fait de se fatiguer à apprendre quelque chose qui ne sera pas valable 6 mois après, ça me paraît un vrai souci. Donc la stabilité dans le temps, c'est pas seulement le fait qu'on puisse encore lire aujourd'hui des documents vieux, c'est que ayant appris une notion, cette notion soit encore vraie. Alors l'ergonomie, ça c'est un truc important. Je sais pas si vous avez tous eu l'occasion d'aller chercher des logiciels sur FreshMint. Moi j'ai souvent joué à ça quand je cherchais un logiciel libre, parce qu'à la maison j'essaye de pas pirater. Je prends que des trucs que j'ai le droit d'utiliser. Il y en a la moitié, ils sont pas finis. Visiblement, le mec qui a écrit ça, il s'en est pas servi. Sinon, s'il s'en était servi, il s'en serait rendu compte que mettre la poignée en haut de la porte, c'est pas malin. Il y a des trucs ahurissants, des menus mal faits, les options les plus courantes qui sont pas disponibles, les réglages par défaut qui sont évidemment pas les réglages qui marchent. Tout un tas de choix parfaitement aberrants. Je regardais Benjamin tout à l'heure, il était en train de reconfigurer son KDE. Je sais pas ce qu'il avait fait, une upgrade sûrement. C'est ça, non ? Je me trompe ? Une discrète upgrade de KDE, et plouf, il fallait tout reconfigurer parce que les fonts, c'était plus celles qu'il avait choisies. En gros, ça marchait plus bien, c'était plus joli, c'était plus pratique. Niveau ergonomie, je trouve que c'est pas terrible. La taille, je trouve aussi que c'est un critère de qualité. Oui, alors c'est pas parce qu'un logiciel est petit ou parce qu'un logiciel est gros qu'il est mieux ou qu'il est moins bien. Mais toute qualité égale par ailleurs, s'il est plus petit, il sera moins en taille. Ça, c'est quelque chose de systématique. Quand on mesure, quand on fait des mesures théoriques ou pratiques de MTBF, on sait que plus il y a de pièces, plus il n'y a de pas. Donc un logiciel plus petit, toutes qualités égales par ailleurs, c'est mieux. La finition, ça c'est quelque chose d'important. Il y a une idée que j'ai, alors qui n'est pas de moi, mais que j'ai lue il n'y a pas très longtemps dans le compte-rendu d'une conférence donnée par Papa Knut, monsieur Donald Erwin Knut, qui disait que lui, pour réussir à faire un soft de bonne qualité, il estimait qu'il fallait toujours avoir en tête, non pas qu'est-ce que je pourrais rajouter comme fonctionnalité à mon soft pour qu'il soit encore plus mieux, mais plutôt comment est-ce que je vais faire pour qu'il soit suffisamment fini pour qu'on me foute enfin la paix avec. Et c'est une approche radicalement différente. Si on prend n'importe lequel des softs actuels du domaine public ou du domaine pas public, hein, d'ailleurs, si on essayait de lui faire atteindre un degré de maturité tel qu'il n'y ait plus besoin de l'équipe de développement, parce que le soft, ça y est, il marche. On pourrait sûrement rajouter des choses, mais tout ce qu'il prétend faire, il le fait. Après, si une autre équipe a envie de se monter pour préparer une version améliorant, rajoutant, etc., c'est autre chose. Mais déjà, finir les produits. Moi, dans le libre des produits finis, j'en ai pas croisé beaucoup. Des produits qui, ah oui, alors dans telle version, il y a tout ça de bugs, mais dans la version d'après, on aura corrigé toute cette pelletée-là. Par contre, comme on va avoir rajouté 2000 fonctionnalités, il y aura encore au moins autant de bugs. C'est pas ça la qualité. Si on faisait ça dans l'automobile, il y aurait beaucoup plus de morts sur les routes. Il y a un critère qui manque, là. La notion de finition, alors quand je dis finition, c'est pas forcément seulement le débugage, ça va plus loin. C'est, ah ben tout marche, sauf que dans tel cas, il faut dire de rafraîchir l'écran parce que sinon ça s'affiche pas. C'est un vrai souci. Je préférerais après.
Cool. Est-ce que tech est pour vous un produit fini?
Tech est pour moi un produit fini. Dans la mesure où le développeur s'en occupe une fois tous les 5 ans, pendant 3 jours, pour regarder les bug reports et corriger ceux qui sont réellement des bugs, j'estime que c'est un produit fini. Enfin, la conception. Il y a un nombre faramineux de projets dans le domaine public sur lesquels le travail de conception est parfait. En gros, on est parti... c'est vraiment l'idée du bazar opposé à la cathédrale, ça. La notion de conception. C'est-à-dire qu'on est parti d'un machin qu'on avait fait entre nous, puis on l'a amélioré, et on n'a jamais revu les fondements. Et au bout d'un certain nombre d'années, on a plus un patchwork qu'un programme. Il marche. Bien malin celui qui arrive à le maintenir. Ça donne un résultat un peu curieux. J'ai vu assez peu de projets dans le domaine public faire vraiment œuvre d'un travail de conception. Généralement, les gros projets font ce travail-là. On va trouver ça dans OpenOffice, très probablement, dans le noyau Linux, pas assez à mon goût. Il y a beaucoup trop de patchs complètement anarchiques faits par des gens qui ne se sont pas intéressés à la façon dont c'était architecturé. Mais dans tous les petits softs moyens, tous les K quelque chose ou les G quelque chose, qui sont des petites applis développées par chacun dans son coin, il n'y a généralement pas de travail de conception et on arrive à un logiciel qu'a priori n'importe quel bon développeur peut reprendre en quelques jours ou quelques semaines et nettoyer d'un nombre d'erreurs assez phénoménal. Des algorithmes qui ne sont absolument pas efficaces, des buffers overflow partout qui, sous prétexte qu'on ne les a pas vus, font qu'on envoie. Enfin, des tas de choses assez embêtantes. Donc dans tout ça, j'ai essayé de définir une notion qui est un truc, je ne sais pas si c'est nouveau, j'ai l'impression que c'était dans l'air du temps. La notion de libérateur, de dire libre, bon c'est bien, mais ça n'en fait pas un bon produit. Il y a d'autres critères pour définir la liberté de l'utilisateur. Et puis, j'ai essayé de rappeler rapidement quelques notions de base de génie logiciel et de qualité. Alors, pas qualité au sens ISO 9000, qualité au sens empirique, habituel du terme en matière de logiciel. Les bonnes pratiques. Ce que les anciens ont dit qu'il fallait faire, et où à chaque fois qu'on a fait comme ça, curieusement, ça a marché. Et alors, voilà les... Là, je termine juste sur l'exemple d'OpenOffice, mais on pourra parler de plein d'autres exemples après, si vous voulez. Sur pourquoi, pour moi, il y a une erreur fondamentale là-dedans. Alors, d'abord, je suis d'accord avec le vrai problème qui est derrière. OpenOffice se veut essentiellement être un concurrent de MS Office. Alors, ça se voulait au départ, mais je me trompe peut-être. Je suis d'accord sur le fait qu'Office soit pas libre, je suis aussi d'accord sur le fait qu'Office soit pas libérateur, et j'ai l'impression qu'OpenOffice n'a réglé que le premier point, et pas tout à fait le deuxième. Alors je dis pas tout à fait parce que je pense que la voie semble bien, ça a l'air d'avancer dans la bonne direction, mais l'impression que j'en ai en tant que vraiment que personne totalement extérieure au projet, c'est que c'est assez récent le fait que ça aille dans la bonne direction. Et je trouve qu'il y a une mauvaise réponse. Ça me pose un vrai problème sur la propriété des documents. C'est-à-dire quand on met des documents dans OpenOffice, il n'y a quasiment que OpenOffice qui pourra les relire. Pour les gens qui ont des suites Office alternatives, admettons, moi j'ai KOffice, mon collègue là-bas aura forcément OpenOffice, et puis mes copains au bureau, ils auront plutôt Windows.
Abbeyware,
en tout cas. Si on veut échanger des documents entre nous, tout ce qu'on est, de OpenOffice à KOffice, si je ne me trompe pas, le seul format commun, ça doit être Word. Il était sauvé au format OpenOffice ou au format PowerPoint ?
Non, il est pour des filtres. Non, et ça, c'était il y a un an ou
deux. Enfin, je sais que j'ai essayé d'ouvrir des documents OpenOffice avec d'autres suites et j'ai jamais eu de résultat. Enfin, je parle même pas d'échec, mais enfin de rien d'exploitable derrière. C'est vraiment l'impression que j'en ai eu. Oui, il peut me l'exporter en papier aussi. Mais ça ne se garde pas. HTML à la rigueur. Moi, j'ai le sentiment que c'est assez contre-productif parce que ça tend à standardiser le format .doc. C'est-à-dire comme le format qui est commun à toutes les suites, alors je reste sur la notion sur les traitements de texte parce que c'est ce que je connais le mieux, mais le format qui est commun à toutes les suites, quoi, à toutes les suites, toutes plateformes confondues, etc., ça va être le .doc. C'est-à-dire celui qui était un standard de fait grâce au poids de Microsoft, il devient d'autant plus un standard de fait grâce à l'aide d'OpenOffice. Ah oui, moi avant, en tant que président d'association, je disais à tous mes fournisseurs, vous m'envoyez un .doc, ben je vous le renvoie, j'ai pas les moyens de le lire, c'est trop cher pour moi, envoyez-moi autre chose. Maintenant, je peux plus leur répondre ça, j'ai un OpenOffice sur ma machine. Alors quand ils m'envoient un .doc, ben, je l'ouvre, je l'imprime. Bon, il ne ressemble pas tout à fait au document d'origine, il y a toujours des petits glitches, des petites différences, des choses comme ça. Mais moi, je trouve ça assez fort. Ça y est, c'est en train de pérenniser le truc contre lequel on voulait se battre. En termes de qualité, ben sur les différents critères de qualité logicielle que j'ai définis, il y a visiblement une tendance très forte à vouloir le satisfaire, à vouloir les satisfaire. Mais j'ai l'impression que c'est pas fait, quoi. Le fait que on continue d'ajouter des fonctionnalités à un produit qui n'est pas encore bien fini de stabiliser, je pense que les différents KDE, OpenOffice et autres sont de bons exemples. Quoi. On continue d'ajouter des fonctionnalités sur des produits qui sont encore. Alors ça s'est amélioré. Sur la version 1.0, c'était peu stable. Sur les versions qu'on trouve en ce moment, c'est franchement propre. Il y a encore des soucis. Mais par exemple, dans les choses qui me font dire que ça va s'améliorant, il y a le fait qu'on commence à voir apparaître des suites de non-régression. Mais c'est quelque chose de récent, ça. Moi, j'ai jamais vu de test de non-régression sur le noyau Linux, par exemple. Pourtant, c'est un projet assez sérieux. Hein, mais les tests de non-régression, qui est un truc, c'est vieux comme l'informatique, vérifier qu'on n'a pas recréé les bugs qu'on avait corrigés la semaine dernière. C'est un truc assez basique. Je ne suis pas du tout sûr que le noyau Linux dispose de jeux de tests de non-régression. Ou alors, si c'est le cas, je ne m'explique pas pourquoi certains drivers ne compilent plus.
C'est des librairies. Ils veulent pouvoir faire de la régression.
Ouais. C'est curieux comme choix.
C'est le leur. Moi, je suis dans la défense.
C'est pas pourtant que ça justifie de ne pas faire de tests de non-régression.
C'est-à-dire, le fait de... Accepter de faire des régressions, je veux dire, accepter de remettre en cause ce qui avait été fait avant, c'est pas forcément malsain. Par contre, remettre en cause quelque chose qui marchait en n'en étant pas conscient, parce qu'on n'a pas regardé, c'est pas le même jeu. Donc pour moi, ça c'est lié au fait qu'il y a une stratégie d'échec. Tant qu'on reste sur l'idée, ah ben sous Windows, j'ai tel outil qui fait bien ce que je veux, alors je vais le copier. Forcément, ça marchera pas. Parce que ça mettra longtemps à être débugué, ça va sortir en retard, les gens auront pris les habitudes de l'outil concurrent. Bah, le bon exemple, c'est Netscape. Enfin, juste avant que ça s'appelle Mozilla, quand c'était Netscape 6 et que ça a commencé à être du libre. Netscape 6, en gros, ça a essayé de rattraper le retard sur Internet Explorer. Si on regarde à cette époque-là comment ça se passait, Internet Explorer, ça faisait plein de trucs, ça les faisait bien, ça plantait moyennement, pas trop, par rapport au Netscape de l'époque qui était un brontosaure inutilisable, c'était bluffant. Ils ont essayé de faire Netscape 6 pour rattraper. Il n'y avait aucune chance. Netscape 6, un flop. Une catastrophe. Le truc, il n'a jamais été fini de déboguer. Il n'a jamais marché de manière satisfaisante. Au mieux, il arrivait à faire quasiment aussi bien qu'Internet Explorer. Alors mieux, de toute façon, ce n'était pas la peine. Quand l'équipe de développement qui est derrière a changé d'approche et a dit, voilà, plutôt que d'essayer de copier Internet Explorer, plutôt que d'essayer de reprendre toutes les fonctionnalités du concurrent, on va arrêter, on va remettre ça à plat, on va faire un navigateur. Il ne marchera pas pareil, il n'aura pas les mêmes fonctionnalités, mais on va le refaire de fond en comble. Il va être fait de manière modulaire, avec des briques, etc. Quand il y a eu cette volonté de créer quelque chose de nouveau, et non pas de copier, ils ont fait Mozilla. Alors évidemment, les premières versions étaient buggées jusqu'à l'os, ça c'est normal. Les versions actuelles sont convenables. S'ils faisaient un peu plus de travail sur la non-régression et sur le fait de repérer les de recherche automatique d'erreurs, ça pourrait être vraiment très propre. Et c'est vraiment bien, quoi. Mozilla, c'est un franc succès. Mais c'est pas qu'un succès technique, c'est aussi un succès auprès des gens, parce que c'est un produit qui marche. Et c'est un produit qui marche parce qu'il a été conçu, parce qu'il a été fait avec qualité, parce qu'il respecte un très grand nombre de standards. Si vous regardez les différents critères pour dire ce que c'est que Libérateur, il doit les respecter tous. Donc, pour moi, il y a un grand nombre de projets qui, comme ils ont comme but essentiel de chercher à copier Microsoft, à copier qui que ce soit d'ailleurs, ils sont sur une stratégie qui mène forcément à un échec. Alors, j'avais trouvé à l'époque où j'ai rédigé ça, mais ça date d'il y a quelques mois, et j'ai pu m'informer un peu depuis, qu'il y avait au moins un très bon point dans OpenOffice, c'est que le format de fichier m'avait l'air bien fait. Compliqué, mais bien fait. J'ai cru apprendre depuis, mais ça tu pourras m'en dire beaucoup, enfin tu pourrais le dire beaucoup mieux que moi, qu'on commençait à croiser des librairies suffisamment autonomes d'OpenOffice pour être reprises dans pas mal de langages, capables de lire ce format de fichier. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de choses que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, ce serait un bon point. Qu'il y ait une lib OpenOffice comme il y a une lib XML, quoi, qu'on puisse enfin lire ça de manière assez naturelle dans n'importe quel soft.
Il n'y a pas de PDF. Il n'y a pas de PDF. Il y a un export direct en PDF.
Je ne sais pas. Si, je sais qu'il y a plusieurs implémentations de PDF. Après, s'ils ne l'ont pas mis en bibliothèque. Mais donc, il y a certains travaux de qualité qu'on commence à voir apparaître, mais qui sont des choses assez récentes dans ces projets-là. Oui.
Et il y a une branche de stabilisation, il n'y a pas d'ajout de fonctionnalité là, un lib, s'il y en a un. À part le plugin son qui est dedans, qui fonctionne pas bien. Il n'y a que ça. Et c'est la 2 qui va apporter du coup. Mais on va toujours avoir là, un X, elle va vivre un moment.
Est-ce que va vivre 25 ans. 25 ans de durée de vie, de chirurgie, monsieur.
Je n'ai pas la première version qui est sortie là, en 2002, par exemple, la raison 3, il y a encore des gens qui sont très contents. Ils l'utilisent.
Est-ce qu'elle est encore diffusée?
Oui.
Il la trouve encore ou OpenOffice.org la diffuse encore? Parce que la trouver, moi il y a des softs qui ont disparu que j'utilisais, que j'ai gardé religieusement.
C'est sur les CDS, hein. C'est
énorme. Comment ça, je vais mettre à disposition? L'essentiel c'est Excel. Il est vraiment le Excel qui est actuel, lise complètement les fichiers créés.
Oui, complètement. Mais ça, je pense que c'est pas
le cas. Ça se limite à un filtre. Ils sont tous. Moi, je fais des tests qualité. Je fais un test sur 20 ou 30 dans un fichier, sans problème. Il y a une quarantaine de fois. Et on les fait tous, quoi. Sinon, on valide pas le test. Les tests de régression sont très rigoureux.
Et ça fait combien de temps qu'il y a des tests de régression sur OpenOffice?
Il n'y a pas très longtemps, mais c'est très sérieusement.
Ah, j'ai jamais douté du sérieux.
Non, il faut le dire.
Mais. Le fait de faire des tests de non-régression, c'est quelque chose qui est une preuve de sérieux en général.
On appelle ça un stopper, les registres candidats, on les a 15 jours, on les essaye entre nous.
Mais c'est une démarche récente. C'est très bien, mais c'est une démarche récente et qu'on trouve encore dans trop peu de projets à mon goût.
Si vous voulez télécharger l'explication et une complète là-dessus, il y a le plus concept en qualité qui a été fait par Sophie Gauthier au Salon Solutions Linux à Paris. Donc vous trouvez ça sur le site. Dans documentation, communication.
Oui. Je ne sais pas si c'était nécessaire de copier. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une transition. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a, des mouvements qui vont vraiment dans la bonne direction, etc. Je ne sais pas si c'était nécessaire de copier. Quelqu'un, je vais reprendre un peu ton explication, quelqu'un qui va passer du Windows auquel il est habitué à un KDE qu'il découvre, dans la pratique, ça ne va pas aller. Dans la vraie pratique de la vraie vie de tous les jours, des gens normaux, qui ne sont pas informaticiens, qui ne sont pas comme moi capables d'aller chercher la bonne version de la bonne lib à installer au bon endroit, qui ne sont pas capables de rattraper quand le système de paquet Debian fait une connerie, etc. etc. Les vrais gens simples vont avoir du mal. Installer un scanner du dernier modèle acheté 3 francs 6 sous à la FNAC sur un KDE qui date d'il y a plus de 3 semaines, c'est quelque chose d'épouvantable. Complètement. Mais on dit s'ils mettent KDE, ils vont se sentir comme
ça. C'est
pas vrai.
Il marche pas, mais avec Windows.
Alors, pas d'utilisateur, mais surtout d'un administrateur. Installer un scanner.
Installer un scanner. Mon père, il a un PC chez lui, il n'administre rien du tout. Mon père, il a un PC chez lui, il est prof de philo, il n'administre rien du tout.
S'il installe son scanner, il administre.
Bah oui, mais il y arrive sous Windows. Oui, mais sous Windows, il y arrive.
Il y arrive pas sous Windows.
Moi, je voudrais te contredire juste sur un petit point. C'est que j'ai viré la suite Microsoft Office de l'ordinateur de mes enfants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vieille, j'ai 4 enfants. Et donc mon fils qui avait 15 ans à l'époque, 3 jours après me dit « Maman, le Word, je ne sais pas ce que tu as fait parce qu'il est vachement bien. » Et je lui ai dit « C'est plus Word. » Et il n'a pas eu besoin de demander quoi que ce soit. Alors bon, ok, il ne fait pas des bouquins, il ne fait pas les choses compliquées que tu fais. Et si tu veux, il s'est retrouvé tout de suite dans OpenOffice comme pour récupérer ses cours, etc. Bon, c'est une petite chose. Maintenant, effectivement, c'est pas évident que les gens qui sont habitués à Windows vont arriver à s'habituer à un bureau qui ressemble mais qui n'est pas tout à fait ça. Surtout qu'ils ne sauront pas comment arrêter leur ordinateur puisqu'ils n'auront pas un bouton démarrer.
On peut avoir la conclusion.
La conclusion, et c'est ce qu'on va faire. Je suis ouvert aux questions. Et si j'ai mis ces infos-là dans une conférence,
c'est une
parole, c'est bon. Attends, c'est
pas une question encore.
Merci. Ouais. Vas-y, Thomas. Déjà, merci pour cet exposé qui a clarifié un truc qui est intéressant. C'est que si on libère le code, on libère l'informaticien. Si on libère la donnée, on libère l'utilisateur. Maintenant, il y a un point que je voudrais soulever sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est sur le fait que cacher de l'information n'est pas libérateur. Tu parlais d'un tableau de bord de voiture. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que je suis plus libre de conduire comme je veux si j'ai un tableau de bord de voiture qui est ce qu'il est actuellement, ou est-ce que je serais plus libre si j'avais un tableau de bord de bagnole qui était un peu comme un cockpit de Boeing et que j'ai à faire la même formation qu'un pilote de Boeing pour conduire une voiture?
T'es pas obligé de mettre toutes les informations au même niveau. Ce qui m'embête, c'est quand on t'empêche d'y accéder. Que tu n'aies de manière immédiate que les informations immédiatement utiles, ça relève de l'ergonomie. Par contre, que tu n'aies pas accès à l'information, ça relève du mensonge.
Par exemple, mettons, qui va dans ton sens, mettons le système informatique est sur les BMW pour dire quand tu vas revenir à la vidange obligatoirement dans ton garage, s'il est venu, on peut te le mettre tous les 3000 km ou tous les 4000 et t'es forcé d'y aller alors qu'il devrait être sous les 8000. C'est un exemple qui te dépend, qui va dans ton sens. Oui. C'est-à-dire, il y a une information, mais à la limite, on peut te la donner et on peut te faire revenir au garage, tu ne peux pas y accéder directement, c'est pas comme vraiment un compteur.
Je dirais pas à ce qu'on me présente toutes les informations tout le temps en vrac, ce serait inexploitable. Mais qu'il n'y ait pas accès, c'est plus embêtant. Quand on a
machine ne veut plus te dire quelle est ton adresse IP, a priori, elle sous toi. Il faut arrêter.
Oui, je trouve que le problème, c'est quand tu fais ce genre d'audit de qualité, ça serait intéressant, en fait, si on veut faire une vraie comparaison avec le logiciel propriétaire pour savoir si les logiciels libres sont plus ou moins intéressants, si tu peux faire le même audit de qualité sur le logiciel propriétaire. Or, à ce niveau-là, moi, je ne suis pas d'accord, c'est un peu ce qu'il disait. Installer un scanner sur un Windows, ça ne marchera pas non plus. Ça ne marchera pas plus, ça ne marchera aussi mal de l'installer sur KDE que de l'installer sur Windows en réalité. Moi, je veux
dire que KDE, ça marche aussi bien que Windows. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je
m'en sers. Il y a certains logiciels qui sont stables. Il y a certains logiciels qui sont stables. C'est un peu aussi l'exemple de PHP par exemple. Quand tu dis que tu as encore besoin aujourd'hui de réapprendre PHP la semaine prochaine, il faut savoir que quand tu as appris le C était déjà stable depuis une quinzaine d'années. Est-ce que dans 15 ans, PHP, quelqu'un qui voudra s'y mettre aura encore à réapprendre le PHP chaque semaine? C'est pas certain. Donc il y a une question de maturité derrière tout ça. Si les suites bureautiques aujourd'hui ne sont pas encore des outils parfaitement libérateurs, c'est peut-être simplement une question de temps. Et elles ne sont ni libératrices en solution propriétaire, ni libératrices en solution libre. Maintenant, elles sont en train de devenir plus libératrices en solution libre qu'en solution propriétaire. Et c'est vrai de tous les outils. Ce qui montre qu'en réalité, les logiciels libres permettent une libération plus rapide qu'avec les logiciels propriétaires.
Ils permettent surtout de se libérer des logiciels propriétaires.
Je suis pas d'accord avec ça. La notion de libérateur est assez décorrélée de la notion de libre. On m'a posé fort intelligemment la question à propos du PDF. Pour moi, tout ce qui tourne autour de PDF, c'est source de libérateur. Parce que c'est un format convenablement documenté, convenablement repris par des outils stables. Il se trouve que le plus abouti des lecteurs de PDF, à mon sens, dans mon environnement, c'est Acrobat Reader. Mais sur Mac, je suis persuadé que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres bons lecteurs de PDF sur Mac. Il y a des outils de génération de PDF qui ne sont pas forcément copyright Adobe. De toute façon, la spécification du format, elle est dans un livre, dans une librairie. Donc c'est accessible à tout le monde. Et c'est un format qui, en plus, est reconnu. Ça, c'est un point que je voulais préciser. Pour moi, un format standard, entre guillemets, il ne suffit pas qu'il soit publié. Il faut encore qu'il soit reconnu, qu'il soit repris. On ne peut pas être standard tout seul. On peut être standard que si on est plusieurs à l'utiliser.
Oui, je voudrais poser une question qui n'est pas technique, même si j'ai commencé l'informatique avant que notre orateur ne soit né, sans doute. Le problème est plus un problème philosophique ou sociopolitique. Le problème de la libération ou de la liberté, c'est aussi le problème de l'utilisateur qui doit être non captif. Donc je ne suis pas sûr, effectivement, qu'il faille se libérer Microsoft. Généralement, il faut se libérer. C'est-à-dire, comment faire en sorte que quelqu'un puisse reprendre ses documents sans être lié à un fournisseur, libre ou non. Je crois que c'est ça le problème. Donc vous avez soulevé un certain nombre de problèmes importants. J'ai juste un bémol, ou plutôt une interrogation sur la notion de liberté. Est-ce un moyen, un objectif ou un principe? C'est une question ouverte. Et deuxièmement, sur le fait que je crois que lorsque on ouvre les standards, même à l'informaticien, même aux techniciens, on peut espérer que 100 000 intelligences qui travaillent sur quelque chose d'ouvert sont plus efficaces que 10 000 intelligences qui travaillent sur un truc fermé. Donc, je n'attaque pas Microsoft du tout, je dis simplement, je voudrais qu'on réfléchisse sur la notion de liberté en tant que principe, objectif ou moyen. Je crois que c'est ça qui m'a semblé important dans votre exposé.
Sur une question sur cette notion libre et libération, les logiciels libres, enfin l'Internet comme standard libre, etc., ont permis l'interopérabilité, c'est-à-dire s'affranchir des machines. Aujourd'hui, ils sont construits sur le deuxième étage de la fusée qui permettent de se libérer des logiciels. On parle beaucoup d'XML, on parle beaucoup d'interopérabilité, etc. Donc la notion de libre rejoint la notion de libération.
La libération est en marche.
Sans parler, juste une petite précision sur la notion de...
Je suis parfaitement d'accord sur le fait que le libre facilite la vie. Le fait de libérer l'informaticien, ça aide beaucoup à libérer l'utilisateur. Mais c'est pas tout à fait nécessaire et c'est pas non plus suffisant. C'est certainement pas suffisant.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qui nous permettent de démontrer que Microsoft rend captif ses clients sur des pratiques qui sont des pratiques aux limites de la légalité. Le fait que le logiciel libre corresponde à une alternative, en ce sens-là, il est libérateur pour pratiquer là-bas la possibilité de faire une liste comme des taxes qui se bat pour le droit à l'information du consommateur. Alors, la chaîne PC, on est bien. alternative libre, il y a un processus libératoire fondamental pour l'utilisateur, pas pour le développeur. Donc il y a des notions de liberté qui sont à plusieurs étages, sur les données, sur l'utilisateur, sur le développeur, qui appartiennent en propre au libre. Faire du libérateur sans faire du libre, je ne sais pas comment on peut faire. Par contre, le libre est libérateur.
L'exemple, je ne vois pas. L'exemple du travail fait par Adobe sur PDF, c'est vraiment un exemple excellent. C'est un format qui, étant un standard reconnu et implémenté et librement implémentable, libère. Avant, quand si je voulais envoyer un document dans une version juste lisible et imprimable, pas un document pour travailler ensemble, mais juste envoyer un document, j'avais pas de format. Ah, maintenant, j'en ai un. Je peux échanger avec ces gens-là. Je peux échanger. J'y gagne quelque chose.
Il y a une notion.
Alors, je suis Frédéric Lobé, c'est juste si vous aviez demandé les noms. Personnellement, mon but, c'est la liberté, et le logiciel libre est un des moyens que j'utilise pour l'atteindre. C'est pas seulement la liberté, c'est aussi le partage, c'est l'égalité, finalement, entre tous les humains. Mais il n'y a pas que le logiciel. Le hard libre peut être autre chose, vous voyez, c'est pas limitatif. Le logiciel libre, en aucun cas, un but. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, pour ce qui est d'être libérateur, si j'écoute vos critères, j'ai l'impression que la plupart, je devrais peut-être même dire tous, les logiciels qui sont dans les distributions stables de Debian vérifient vos critères. Alors, on peut peut-être discuter plus précisément de ça, mais la remarque que je voulais faire, c'est finalement, à qui s'adresse votre conférence? C'est-à-dire que, est-ce que ce que vous demandez, et qui est tout à fait sain, logique, d'avoir des logiciels libérateurs, mais est-ce que vous le demandez aux développeurs de logiciels libres ou finalement aux gens, à d'autres, qui rendent les logiciels accessibles à l'utilisateur financier? Est-ce que ce n'est pas aux intermédiaires d'atteindre le niveau de qualité qui fait d'un logiciel un logiciel libérateur et non pas aux producteurs? Parce que vous demandez la lune aux producteurs finalement. Et il faut du temps. Moi, je pense que les distributions, c'est les gens qui ont le pouvoir et le rôle même de répondre à vos critères de libérateur. Mais demander ça aux producteurs, c'est une tâche qui est surhumaine, parce que personne ne le fait finalement. Tech lui-même, si vous prenez les sources de tech.
On va mettre des gens libérateurs. Ça va clore le débat.
Ok, mais vous voyez, vous avez besoin de gens qui vont vous le packager. On a parlé du PDF, on va sortir un tout petit peu de l'exemple du PDF. Prenons le Flash. Est-ce que pour vous, le Flash est un bon format? Il est aussi public, autant publié que le PDF. Mais tous deux, ils ont en commun la difficulté d'implantation des spécifications qui pourtant ont été rendues publiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déplacer la difficulté sur le produit. Parce que pour PDF, ça fait plus de temps que les spécifications.
Ah, ça fait depuis le début du PDF.
Oui, mais il évolue. Attention, il n'y a pas un PDF, il y a plusieurs niveaux de PDF. Et à chaque nouvelle. En fait, la nouvelle version de PDF est définie par le nouvel Acrobat Reader qui sort. Non, c'est la réalité.
Il y a un décalage entre la numérotation des ASOPF et la numérotation de la ambassadeur, mais sinon, c'est ça la réalité. C'est juste que donc le logiciel sera forcément en retard sur le PDF. Forcément. Maintenant, la norme est publique, vous avez tout à fait raison.
Techniquement, dans la pratique, je sais que les gens qui ont fait PDF Tech, donc un logiciel libre, développé par un très gentil monsieur pendant sa thèse, ont été reçus et écoutés par les développeurs de chez Adobe parce qu'ils arrivaient à générer du PDF de meilleure qualité que celui de chez Adobe. Ça vient uniquement du fait que que la norme soit publiée et que la norme publiée ait été lue.
Alors, ça vous le dites pour une ancienne version de PDF. Je ne crois pas que PDF Tech utilise les toutes dernières versions de PDF. Et ça, c'est seulement atteint par un logiciel libre qui s'appelle Scribus et qui est même le seul au monde à être capable de le faire. Il y a eu une conférence à ce sujet dans ces rencontres. Vous voyez, le tout dernier PDF à jour.
Oui, le seul logiciel au monde, c'est ce
qu'il dit. Oui, justement.
Y compris les logiciels d'Adobe n'y arrivent pas.
Mais, il y avait des choses qu'il faisait mieux, effectivement. Il était le seul. C'est pour ça que c'était assez étonnant, parce qu'il atteignait justement.
C'est pour ça que je trouve que la démarche d'Adobe sur le PDF est une démarche extrêmement libératrice. Ils disent, voilà, on sort en même temps une norme qu'on publie. Il y a un soft qui, selon nous, implémente la norme, et allez-y, utilisez-le tout de suite. On ne sort pas la norme 4 ans après. On ne publie pas la norme une fois que le marché est conquis, on ne publie pas la norme une fois que les gens sont captifs. On la publie dès qu'elle est prête.
C'est une démarche de la
Et c'est une démarche que je trouve de nature à apporter de la liberté aux gens.
Et qui doit le faire? Vous n'avez pas répondu à cette question, c'est finalement, est-ce que pour vous, c'est les développeurs?
Alors, il y a
y a un point auquel je voulais répondre qui était le tout début, qui je ne suis pas d'accord. Dans Debian, il y a une grande majorité de choses qui ne sont pas libératrices. Donc ça, je suis clairement en désaccord. Pour moi, KDE, ce n'est pas libérateur, ça ne libère rien du tout. Si, ça libère le développement patché. Si je ne suis pas content du machin, quel qu'il soit, un bouton, un menu, une fenêtre, un ascenseur, il ne me plaît pas, je peux le patcher. Mais ça garantit la liberté des informaticiens. Laissez-moi finir. Donc, si on prend Debian et qu'on retire tous les softs dans ce bout-là, qui n'apportent pas de liberté particulière, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas informaticien du tout, s'il travaille sous Windows ou sous KDE, il a quasiment le même degré de liberté. L'intérêt de KDE, c'est que ça a créé une alternative là où le marché concurrentiel n'en créait plus. Mais pas plus que ça.
C'est fondamental.
Surtout quand on est économiste.
Non, surtout quand on a un intérêt, c'est fondamental.
Mais
c'est ça qui est le droit.
Vous voulez un élément important, c'est l'argent. Moi, quand on parlait des enfants, justement, mais aussi, les personnes ont envie de savoir qu'à l'école, ils vont apprendre à écouter une chose. Moi, je n'ai pas les moyens de faire des enfants à une chose.
C'est libéral.
Moi, avec un des deux, alors effectivement, ils ont un nom qui est à peu près similaire, mais au moins, il y a une égalité par l'argent.
Là, on confond des critères très différents. Gratuit, c'est un critère intéressant. Mais si Microsoft offrait les logiciels, on est bien d'accord, on ne serait pas plus d'avancer.
Windows est gratuit, très bien, mais il y a d'autres logiciels derrière, Office, pas forcément gratuit. Et puis on parle de tous les autres. Le problème, les logiciels propriétaires, ils favorisent le piratage. Parce que. Un étudiant à la fac, auquel on apprend le C avec Visual C, c'est arrivé ici. Auquel on apprend le C avec Visual C, Visual C, qu'est-ce qui se passe? Il arrive chez lui et il pirate Visual C.
Alors qu'il n'est pas prêt de pirater GCC, je suis bien d'accord. Mais par définition, le piratage n'existe que dans le monde propriétaire.
Voilà. Et ça, c'est dans votre discours, ça n'apparaît pas.